Bonjour et bienvenue sur ce podcast Moodstep. C'est le podcast où on parle de toutes les intelligences au travail, de l'intelligence émotionnelle à l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va explorer l'interculturel avec Cécile Lazartigue-Chartier qui est basée au Québec. Donc nous allons parler de toutes ces différences qui, à mon avis, s'appliquent non seulement dans l'interculturel, mais aussi dans les différences entre nous pour mieux se comprendre. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur. Rejoignons tout de suite Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour Johanna.
Alors je suis heureuse aujourd'hui parce que nous sommes au Québec.
Oui, à Montréal pour être plus précis.
J'aimerais voir ce qui se passe au Québec. Alors c'est marrant, c'est un premier pas parce que vous êtes française, c'est bien ça?
Tout à fait, du sud de la France.
Mais et vous êtes installée là-bas il y a plus de 20 ans.
Alors, ça fait 21 ans, c'était pour une aventure, ça a commencé par 1 an, 3 ans, et presque 22 ans après, toujours à Montréal, toujours au Québec avec grand bonheur.
Alors aujourd'hui avec vous, on va parler d'interculturel. Et avant de commencer et de se lancer sur ce sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire quel a été votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui?
Alors, française donc d'origine, j'ai fait une partie de mes études en Italie et aux Pays-Bas. Pour moi, le voyage et la rencontre à l'autre, le voyage dans le sens de vraiment rencontre, a toujours été important. Puis, j'ai été directrice des communications dans le milieu culturel pendant fort longtemps. Et avec mon mari, on avait toujours cette envie d'aller vivre ailleurs. Et les planètes se sont alignées à un moment donné dans notre parcours. Et on s'est dit, pourquoi pas le Québec? Et on avait un enfant en bas âge, donc c'était l'aventure assez sécuritaire dans le sens où il y avait du travail, la langue était commune et une proximité sensément de culture, justement. Et dans le mot sensément, c'est vraiment important. Et puis, on est parti, et voilà.
Et aujourd'hui, vous faites quoi?
Alors, l'interculturel, moi, je suis consultante en interculturel. J'accompagne les entreprises, les projets internationaux ou les individus, justement, à avoir des outils concrets pour mieux comprendre l'autre dans ses codes culturels, tout ce qui est implicite et qui touche nos relations humaines, alors que ce soit en entreprise ou dans la vie personnelle. Et c'est un domaine qui finalement touche tous les autres domaines, que ce soit de l'entreprise ou de la vie privée, parce qu'on y parle du rapport au temps, à la hiérarchie, au commun versus l'individuel, l'envie d'entreprendre, donc les rapports hommes-femmes, l'espace, est-ce qu'on se touche, est-ce qu'on se touche pas. Donc, c'est absolument formidable comme domaine d'expertise.
Ouais, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, voyagé également. Et ce sujet m'intéresse particulièrement parce que je trouve qu'on peut beaucoup apprendre de l'interculturel dans le sens où, d'une certaine manière, chaque individu a une culture différente. Et j'ai trouvé, en tout cas dans mes expériences, qu'il était presque plus facile de s'adapter à quelqu'un qui avait une culture très différente de la nôtre et on le savait, plutôt que quelqu'un qu'on croyait être d'une culture proche et où on ne comprend pas justement ces petites différences ou ces choses qui ne collent pas. Et c'est pour ça que je pense que ce sujet, là on va parler de l'interculturel entre deux cultures, mais il s'applique vraiment à chacun de nous avec nos cultures familiales, nos cultures... Est-ce que vous... Puisque vous avez dit le mot « censément » quand vous avez parlé du Québec, puisqu'on est censé avoir une culture assez proche, puisqu'on a une langue commune, qu'est-ce que vous avez mis dans ce mot « censément » ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
C'est justement cet a priori. On arrive avec des biais conscients ou inconscients, et on a l'impression, tant au Québec qu'en France, que l'autre, de l'autre côté de l'Atlantique, est d'une relative proximité. Or, il n'en est rien. Oui, on parle la même langue à la base, mais effectivement, je veux revenir sur ce que vous disiez qui est très, très intéressant, c'est que si on va faire des affaires ou si on va vivre pour une raison X ou Y à Bamako ou à Tokyo ou à Buenos Aires, c'est clair qu'on va se préparer. Un, linguistiquement. Deux, historiquement, parce que c'est des choses qui nous sont très éloignées. Et quand on arrive au Québec en étant français ou francophone, on est un petit peu dilettante. Oui, on a lu deux, trois livres, deux, trois articles, et finalement, on sait. Surtout quand on est français, on est très, très fort à savoir tout sur tout. Et on arrive, alors il y a une espèce de premier contact où les Québécois sont très chaleureux, très ouverts, très tranquilles, avec une sorte de regard bienveillant. Donc le français décode ça en pensant que ça va être facile, que oui, il a tout compris. Et là, il prend son rythme de navigation et il fracasse des murs, parfois même sans s'en apercevoir. C'est juste, il y a un moment où il sent que le fil de la communication ou de l'échange est perdu, mais parfois le français ne s'en aperçoit même pas sur la façon de rentrer en contact, de se toucher, pas se toucher, des mots tabous, des zones délicates où parfois on arrive avec nos gros sabots, là encore, sans s'en apercevoir, sur le conflit ou la gestion. Le Québec est une société à part dans le Canada. C'est vraiment une société distincte, de par, un, sa langue, mais également son histoire et son rapport à l'histoire. Et par exemple, les Français disent: Oh oui, j'adore le Canada, en parlant du Québec. Ben, effectivement, la réalité, c'est que le Québec est dans le Canada, mais concrètement, le Québec est une société distincte. Donc, faire un amalgame de prime abord en disant j'aime le Canada en parlant du Québec, déjà là, on a perdu 25 000 points et on ne sait même pas pourquoi. Donc, tout est dans l'expression anglophone que j'adore, qui est le diable est dans les détails. C'est-à-dire que avec la meilleure volonté du monde ne suffit pas à rentrer en bonne relation. Il y a un million de facteurs qui sont primordiaux pour arriver à une vraie connexion à l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut adapter à toutes les cultures. Autre point que je trouve très intéressant que vous avez amené, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de Maubeuge et qui va travailler à Nice, ou qui vient de Perpignan et qui se retrouve à Grenoble ou en Bretagne, les chocs peuvent être très grands. Alors, il y a des cultures, des référentiels différents. Et il y a aussi les strates de dans quel domaine je travaille, quels sont les us et coutumes, mais aussi quel âge j'ai, d'où je viens. Le profil socioculturel est extrêmement important comme référentiel. Donc, que j'arrive, que j'ai 24 ans et que je pense que le monde m'appartient en étant, par exemple, là, je suis vraiment dans les clichés, issu de la classe moyenne française et ayant fait mes études dans une école de commerce privée, ou que j'arrive du fin fond de la Bretagne et que je sois un autodidacte brillantissime, le rapport à l'autre va pas être le même. Donc quand on arrive au Québec ou dans toute autre zone autre, dirais-je, les strates de communication sont différentes. Donc être conscient qu'on a des biais et que à quoi on fait référence. Par exemple, quand on dit manager, être un manager, c'est quoi pour un Français et c'est quoi pour un Français de 30 ans ou un Français de 55 ans et un Québécois qui vient de la ville de Québec ou qui vient du sud de l'Ontario qui est anglophone mais qui s'est inséré dans la population francophone à Montréal. Donc, les strates de connexion sont très, très différentes.
Alors comment on se prépare à ça? C'est-à-dire, puisque c'est assez invisible en fin de compte comment l'onde fonctionne, quelles sont ses références, donc ces biais sont invisibles, comment on se prépare, comment on fait pour s'adapter?
Alors, je dirais que c'est un peu cliché, mais c'est extrêmement vrai en même temps. C'est qu'il y a une part d'humilité, mais d'humilité qui doit pas être feinte, d'humilité réelle et profonde. De dire, mais j'arrive dans un territoire que je ne connais pas, même si ma vie avant, même si mes référentiels sont riches, même si je maîtrisais, là, je ne maîtrise pas. Si on arrive à Tokyo ou qu'on arrive au fin fond d'Afrique du Sud, on a cette humilité par la force des choses de dire, bon, ben là, je comprends pas, je sais pas, donc j'attends. Je suis dans un mode, au lieu d'être un espèce de guerrier qui sait, qui va et qui va faire et qui organise, plutôt prendre ce temps de latence, de vacances, pour être dans le sens de vacant. C'est un espèce de vacuum qui permet de dire, ok, je regarde, je vais trier après les informations, j'écoute, parce que dans l'écoute, il y a plein d'informations complètement inconscientes qui vont arriver à notre cerveau, qui va nous permettre de, après, être capable de faire un canevas en disant, oh, ben, j'ai vu 25 000 fois les gens faire ça avec leurs mains, avec leurs yeux, avec l'intonation de la voix, et c'est des informations qu'on engrange et après on est capable de trier. On ne connaît pas l'histoire, le pourquoi, du comment, ben, on ne sait pas. Alors, on va juger, on va catégoriser, et ça c'est humain, on arrive, on est obligé de trier dans notre tête selon nos référentiels. Mais d'être capable d'attendre, de regarder, l'humilité, la patience et l'écoute. Ça, c'est vraiment la clé primordiale d'un rapport à l'autre. Mais je dirais d'un rapport à l'autre dans l'interculturel, mais même dans notre petite ville, fin fond de la Lozère ou à Paris, c'est aussi ça. C'est de laisser de l'espace à l'autre pour nous donner des informations qui vont nous permettre de rentrer en relation avec lui de façon plus adéquate.
Je me faisais une réflexion parce que j'ai fait beaucoup de négociations à l'international dans beaucoup de pays. Et alors après, il y a une notion de pouvoir aussi. Ça dépend de ce qu'on fait, avec qui. Il se trouve que j'étais acheteuse, donc j'avais un certain pouvoir, oui, face à mes fournisseurs. Et je me suis toujours dit aussi, c'est-à-dire dans quelle mesure il faut s'adapter. Et dans quelle mesure il faut aussi venir avec sa propre culture sans trop se transformer. Bon, là, c'est particulier, c'est vrai, avec les achats, mais oui, dans quelle mesure, jusqu'où on s'adapte et sur quoi on s'adapte, sachant qu'on ne va pas non plus effacer notre propre mode de fonctionnement et notre propre culture.
Et c'est fantastique comme thématique. Merci de l'amener parce que c'est vraiment quelque chose de primordial. Et ça, c'est, je pense, le travail d'une vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me revient? De quoi je ne fais pas fi et qui est quelque part le fil rouge de ce que je suis et ce avec quoi je veux communiquer avec l'autre? Et l'autre partie, c'est-à-dire dans la relation, dans les 50% de notre relation, qu'elle soit en négociation, qu'elle soit en gestion du personnel, qu'elle soit en publicité, en relations publiques, peu importe dans l'entreprise, ces 100% de relation, il y a 50% qui reviennent entièrement et définitivement à l'autre et 50% à moi. Donc, ce mélange, et pour moi, c'est vraiment l'idée, l'image de l'équilibriste qui traverse deux falaises et où il y a un trou vertigineux, c'est la vie, en fait. C'est des fois, je suis sur le terrain de l'autre et je me dois et je sens que c'est l'acte juste d'aller dans son sens, dans sa dynamique, dans le respect de ses valeurs, du flot de la relation. Et parfois, j'incarne d'une façon très carrée quelque chose qui est non négociable parce que pour moi, c'est irréconciliable avec la relation. Donc, c'est vraiment l'équilibriste avec sa perche qui parfois est trop d'un côté, revient au milieu, trop de l'autre, revient au milieu. Et l'interculturel, c'est vraiment la quintessence de ça. Alors, en tant qu'humain, on a toujours des courbes, par exemple, des courbes d'intégration, que ce soit les expatriés, les immigrants au Québec ou les gens qui vont vivre ailleurs à un moment donné ou qui travaillent avec des équipes multiculturelles aux quatre coins du monde. c'est que on essaye par mimétisme, et ça c'est animal, de ressembler à l'autre, de trouver, de s'approprier sa couleur, la couleur de l'autre, mais à un moment donné ça fonctionne pas, donc on revient vers soi sur l'ancrage à nos valeurs, puis on s'aperçoit qu'on est venu trop à l'intérieur, donc on repart, et à un moment donné, il y a une espèce de fluidité dans la relation, dans le en tant que manager, dans la gestion des équipes, qui fait que on est confortable avec ce qu'on est, on est respectueux et conscient de ce que l'autre est, et l'espace entre les deux, c'est une espèce de respiration, c'est le flux, c'est la marée. Des fois, c'est vers lui, des fois, ça revient vers nous, des fois, c'est vers lui. Et en fait, il n'y a rien de monolithique. Parce que même dans la relation, il y a un moment donné où il peut y avoir des confrontations ou pas. Par exemple, le Québec est une société où de consensus. Pour certains Français, c'est extrêmement difficile dans la gestion parce que c'est tabou. La confrontation un peu musclée ou un peu trop dynamique est extrêmement néfaste à la relation. Donc, certains Français, au début, n'ayant pas ces clés-là, se disent: Oh, ben, ils sont mous, c'est consensus mou, il n'y a rien qui avance. Oui, effectivement. Quand on regarde selon les critères français, il n'y a rien qui avance. Néanmoins, pour le Québécois, qui est une société de consensus, il est important d'avoir raison ensemble. Donc, il vaut mieux avoir tort ensemble que raison tout seul. Donc, ça, c'est extrêmement paradoxal parce qu'en même temps, on est en Amérique du Nord où est valorisée la réussite, l'audace, l'entrepreneurship. Donc, c'est des choses qui sont tellement subtiles que ça demande beaucoup, beaucoup je dirais, de conscience de ce qu'on est. Et c'est ça qui, c'est une un des défis les plus importants pour les immigrants.
Et donc vous, quand vous accompagnez des individus dans cette compréhension de l'interculturel, comment vous aiguisez cette capacité à voir ces nuances? Parce que c'est vrai, l'exemple que vous venez de prendre, en fait, en vitrine, on voit l'entrepreneurship, qui n'est pas un mot français d'ailleurs, mais l'entrepreneuriat, on voit... Et puis, en fin de compte, il y a cette culture du consensus. Voilà, comment vous accompagnez les gens pour voir ces choses-là, les détecter?
Alors, soit parfois je fais des conférences publiques ou des conférences pour des entreprises. Donc là, je brosse un portrait global, une vision 360 degrés pour mettre en contexte et permettre d'avoir une perspective. Après, j'accompagne les gens, soit en petits groupes, par exemple des décideurs ou des gens qui vont aller travailler de l'autre côté de l'Atlantique ou dans un autre pays. Alors à ce moment-là, je pars de leurs besoins et on fait de l'accompagnement. Alors ça va du remplir un profil très classique sur l'interculturel, sur notre façon de gérer les équipes, etc., notre rapport au succès ou à l'échec d'ailleurs, qui est très important. Et à ce moment-là, il se retrouve avec un profil qui est un profil avec des logiciels qui sont nombreux pour voir la différence entre leur façon d'appréhender les thématiques interculturelles qui est normalement en phase avec leur pays d'origine et la même chose par rapport au pays où ils vont travailler ou immigrer. Et là, ils s'aperçoivent de la différence majeure ou de la similarité. Par rapport à une dynamique thématique. Par exemple, je ne sais pas, le rapport au temps, est-ce que, ou le commun versus l'individuel. Bon, ben, c'est clair qu'un Japonais qui va passer le test sur le commun versus l'individuel, ça va être clair d'un côté, et s'il va travailler au Canada ou au Québec ou en France, la marge va être différente. Donc là, il va s'apercevoir que, waouh! On est sur des planètes différentes. Donc juste cette prise de conscience avec un logiciel qui est assez, somme toute, très classique.
Vous utilisez quoi, si c'est pas indiscret? Parce que c'est un profilage, ça.
Oui, c'est le profil nomade de l'entreprise Actéos, qui est très perfectible, mais que j'utilise au Québec parce que c'est en français, parce qu'il y en a plein qui sont en anglais. Mais le profil nomade de chez Actéos a cet aspect positif pour certains, parce que surtout quand on est dans l'émotionnel ou dans la gestion, parler en anglais, même si on est très très bon en anglais, c'est déjà une strate de plus dans la compréhension et dans le décodage des informations.
Mais Nomade, là, est spécialisé justement sur
Oui, tout
l'interculturel.
à fait.
C'est pour ça qu'il s'appelle Nomade. Oui, d'accord. Et ça va être quoi les composantes du profil qui ressortent
Alors,
c'est-à-dire est-ce qu'il y a des grands agrégats?
ben, en général, c'est l'entreprise, moi et la société, la façon de, par exemple, de gérer. Est-ce que je suis communautariste ou est-ce que c'est plutôt c'est par rapport à la hiérarchie? C'est vraiment orienté.
Donc, il y a la relation aux autres, la relation au groupe, la relation au temps.
Oui, tout à fait. Puis homme-femme aussi.
Ah oui, important dans les...
Donc, c'est des choses qui sont très, comment dirais-je, qui sont des clés. Donc, il y a la distance hiérarchique, l'application de la règle. Ça, c'est hyper important. Est-ce que, il y a, comme les Français ont dit, oui, il y a une règle, et pour nous, c'est hyper important qu'il y ait une règle, mais il y a un mais après. Donc, il y a une règle, mais comment je vais pouvoir la tourner parce que ça ne s'adapte pas à moi qui suis tellement extraordinaire ou spéciale? Hein, on s'entend. Le référentiel par rapport au rapport au travail, il y a le raisonnement, la gestion du temps, la prise de risque.
Ah.
La prise de risque, c'est une des clés majeures en interculturel. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Comment vous embrassez le risque? Est-ce que ça fait partie des valeurs prônées dans votre culture ou est-ce que vous attendez que le boss qui est juste au-dessus de vous, qui lui sait, mais vous, vous savez pas, vous dites.
Je suis curieuse là-dessus, quelle est la relation des Français, c'est un peu général, mais sur la prise de risque par rapport aux Québécois?
Alors, le français est dans je dirais, dans l'académique, dans la théorie. Donc, plus il est formé, plus il pense qu'il sait ce qu'il faut faire. Donc, il y a des codes, des strates, on est dans la pyramide hiérarchique, même comment dirais-je, de valorisation interne, mais aussi externe. Et quelqu'un qui a un doctorat est tellement plus intelligent que quelqu'un qui a un CAP, c'est bien connu. Mais ici, que vous ayez un CAP ou un doctorat, oui, il faut avoir des outils. Que ce soit savoir souder ou être capable de faire la recherche. Néanmoins, c'est le titre d'un article que j'ai vu passer il n'y a pas tellement longtemps, c'est « On peut être bardé de diplômes et être un grand con ». Et il y en a beaucoup, on en a croisé. Donc, au Québec, le diplôme ou la formation est un postulat de base, quel que soit votre niveau dans la société. Mais après, c'est ce que vous êtes capable de livrer. C'est ce que vous êtes capable d'amener comme plus-value, soit à l'entreprise, soit au projet, soit au groupe, soit dans votre groupe de bénévoles. C'est OK, oh, tu as une bonne idée. OK, mais pas de théorie. C'est quoi ton idée, concrètement? Mais quand on amène une idée, c'est pas tiens, j'ai une super idée parce que ça fait 3 ans que j'étudie la question et que je vous la lance là maintenant. Tu fais OK, c'est super ton idée. Mais tu la mets en place comment? Ça va nous apporter quoi? De quoi tu as besoin? C'est quoi les délais? Donc on est dans le pragmatisme concret. Alors qu'un Français va en réunion, effectivement, amener vraisemblablement une idée super géniale, mais en même temps, concrètement, on se dit, OK, mais c'est quoi la prochaine étape? Et là, il va dire, wow, il faut que ça mature, il faut qu'on en parle, nanana, parce que, et là, il va vous sortir toute son intelligence et toutes ses références culturelles qui sont souvent très riches. Il dit, OK, mais vas-y, donne
Ouais.
ton point.
Ils ont une culture de l'action
Oui, tout à
plus que les
fait,
Français, en
tout à
fait.
fait. Donc, ça permet d'être plus réactif. Par exemple, les réunions, ça c'est une anecdote, mais au Québec, on fait des réunions, il y a un ordre du jour, on a un temps imparti, chacun sait ce qu'il va faire. Il y a un espace quand même pour délibérer, mais on sort de la réunion, pop, avec la date de la prochaine réunion pour continuer notre discussion. Non, non, c'est avec toi, tu fais ça pour lundi, il faut qu'on livre ça, on va mettre ça en place, ça, on va tester parce que c'est une nouvelle idée, etc. Donc, on est dans le pragmatisme. Les Français, ça les frustre beaucoup parce que ça les frustre dans un développement intellectuel qui peut être très riche et très porteur de nouveaux possibles. Et on a besoin de cette valorisation intellectuelle. Le pragmatisme un peu brut de décoffrage du Québécois en disant « Ok, c'est quoi ton idée? Vas-y, livre quoi? Quand? Comment? » C'est comme « Wouh! Wouh! » C'est un peu frustrant. Et les Québécois sont un peu agacés de toutes ces belles théories. Ok, vas-y, vas-y, mais…
Même parce que je pense dans notre culture, on aime les idées, tout
Tout à
simplement.
fait.
C'est-à-dire, on aime réfléchir, on aime débattre, on aime parler. Ce qui peut avoir ses avantages dans d'autres circonstances et ce qui peut être plombant en fin de compte dans certaines autres
Tout à fait.
circonstances.
Donc, je pense que là encore, et on est un peu dans le béni oui, le cliché, mais c'est quand même une réalité, c'est de prendre le meilleur des deux mondes. Ce pragmatisme qui nous permet de dire, OK, il y a un deadline, cette limite-là, qui fait quoi, comment, et en même temps de mettre un peu plus d'âme ou un peu plus de recherche, de sophistication intellectuelle. Ça serait le meilleur des deux mondes.
Après, quand on regarde aujourd'hui le monde, la globalisation, on s'habille, on va tous chez Ikea, on va tous s'acheter les mêmes vêtements, on regarde les mêmes séries qui passent dans tous les pays du monde, une forme de globalisation même des idées,
Le
d'une
formatage,
perte presque,
tout à fait.
ouais, une perte d'identité, de spécificité. Justement, comment vous voyez ça, cette évolution? Est-ce qu'elle n'est pas en train de raboter l'interculturel, qui peut être une richesse en fin de compte.
Le fait est qu'on regarde tous les mêmes séries à travers le monde, l'impérialisme américain ou occidental, c'est franchement appauvrissant et on est dans l'acculturation totale. Ceci étant dit, y a le pendant positif de ça, effectivement, c'est qu'on est plus en contact avec d'autres. On ne peut pas faire fi néanmoins de l'interculturel parce que quelqu'un qui vient de Bombay, enfin qui vient d'Inde, aussi éduqué soit-il, et même s'il a fait ses études par exemple à Londres et que il a des outils occidentaux profonds, son référentiel, ses référentiels sont de l'ordre de la culture, de la religion et son rapport au temps, par exemple, le fait que pour lui, qu'il soit religieux ou pas, pour lui, la réincarnation fait partie de ses référentiels, fait que dans sa gestion du temps, ça sera pas du tout la même façon d'aborder les choses que un occidental, par exemple, de référence judéo-chrétienne, pour qui, même, et je répète, même s'il n'est pas religieux, pour les judéo-chrétiens, on a une vie. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Après, c'est soit le paradis, soit rien du tout, mais c'est maintenant que ça
L'enfer, l'enfer, vous
se
oubliez
passe. Ouais, c'est
l'enfer.
ça. Et alors, pour les gens, par exemple, pour qui la réincarnation est une réalité ou pas historique mais référentielle, si c'est pas maintenant, ça sera dans la prochaine vie ou dans la 15e après. Donc le rapport au temps de par ce fait même est complètement différent. Et ce qui est paradoxal, c'est que les gens ont beau être super éduqués, par exemple, ça intervient quand même dans la gestion du temps des affaires.
Eh oui.
Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement.
Par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez quelque chose de, quoi, une histoire concrète pour qu'on comprenne dans la gestion des affaires comment ce temps et cette différence de rapport au temps peut intervenir?
Bon, en Afrique, le temps est sur différentes strates. Un entrepreneur peut travailler le dimanche ou le lundi selon sa religion ou le vendredi et il peut avoir des coups de fil à son bureau professionnel de sa cousine et demander comment va l'autre tribu, etc. Ou rentrer dans l'ordre du personnel pendant longtemps dans ses heures de travail parce que le temps est complètement différent, par exemple, de la vision occidentale.
Comme je vous l'ai dit en introduction, je trouve que même sans être dans un pays étranger, comprendre ça, comprendre qu'on est vraiment différent et qu'on a des références, des codes différents, c'est clé dans toutes nos relations en
Tout
fait.
à fait. Et c'est pour ça que je dis, aller vivre dans un autre pays ou travailler à l'international, peu importe dans quel sens, c'est exigeant parce que ça nous pousse à, pour que ça se passe au mieux, ça nous pousse à nous poser des questions sur nous-mêmes, qui est fantastique. C'est une opportunité de grandir en tant qu'humain, fantastique.
Faut juste en avoir conscience pour pas le subir en fait.
Effectivement, et pour pas se faire des chagrins ou des échecs
Oui.
qui auraient pas de qui ont finalement pas de sens.
Ben oui, c'est une mauvaise compréhension souvent ces fameux chagrins.
Mais on peut pas s'affranchir de l'expérience. Mais
Ben là, on va prendre l'esprit québécois.
en étant
Comment on y va?
ouais.
Allez, à l'action!
Mais en étant outillé, ça permet concrètement d'arriver dans l'expérience plus mature. Ça nous permet de gagner en profondeur, en fluidité et en efficacité aussi.
Je vous propose de passer au questionnaire
Oui.
avec la première question, et puis c'est marrant puisqu'on y a fait référence, puisque la première question, d'ailleurs je fais une parenthèse, on m'a dit il y a quelques années que je n'avais pas les codes français.
Ah.
Peut-être que cette question vient de mes codes internationaux.
Tout
Oui.
à fait.
Est-ce que vous avez déjà vécu un échec qui vous a particulièrement fait avancer, qui vous a appris?
Alors, c'est un échec au début de ma carrière qui n'a rien d'interculturel, mais qui est quand même le cœur de mon travail. J'étais dans une grosse entreprise et dans un gros organisme et j'étais toute jeune professionnelle et on m'avait dit d'attendre. À l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones cellulaires, je précise. Et oui, ça donne mon grand âge. Je devais attendre. Un journaliste de Libération qui venait et c'était un événement énorme. Il y avait des problèmes de temps. Bref, à 3 heures de l'après-midi, à 2 heures de l'après-midi, le fameux journaliste de Libération qu'on attendait comme le Messie était toujours pas là. J'étais toute seule et tout d'un coup j'ai pris. Je dis bon, bah, c'est bon là. Il avait dit midi, les 2 heures, c'est bon, je m'en vais. Et je suis allée manger à 2 heures de l'après-midi. Et évidemment que c'est passé. Il est passé quand j'étais pas là. Donc, drame atroce, mon boss. Bref, ça a été assez rock'n'roll, beaucoup de larmes, etc. Et je me suis sentie toute petite, complètement inadéquate, pas professionnelle. Bref, je me suis flagellée pendant un grand moment. Et mon boss de l'époque y était pour beaucoup aussi. Et en fait, c'est une erreur, et je l'ai vu longtemps après, c'est que ça m'a appris 3 choses extrêmement importantes au niveau professionnel, tant personnel, mais surtout professionnel. C'est qu'en fait, contrairement à la France où la hiérarchie est complètement pyramidale et d'une façon stricte, quelque part, et ça c'est le Québec qui m'a appris ça, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités. Peu importe notre tâche, à un moment donné, si on a une mission, quelle qu'elle soit, en l'occurrence, ça avait très peu d'importance juste d'attendre un fameux journaliste Moi, j'étais personne dans le rouage, j'étais une petite professionnelle de rien du tout. Et de prendre la responsabilité, c'est de ne pas attendre quelque part que une voix supérieure, quelqu'un qui sait beaucoup mieux que nous, ok, ben, tu es tout seul, tu es sur le terrain, tu es dans un conflit, peu importe la situation, ok, tu as une mission. Tu as des outils qui sont limités parce qu'on est des humains, donc on est très limités, mais on a aussi des capacités incroyables. Donc, de faire au mieux de la situation, de pas prendre les choses personnelles, c'est-à-dire si on est honnêtement, on a fait au mieux avec notre conscience, notre capacité, etc. Mais concrètement, de pas prendre les choses personnelles, ça dédramatise et ça nous donne mieux accès à tout notre bagage et nos outils. Et quelque part de se faire confiance, c'est-à-dire que si on est pompiste ou si on est PDG, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui a pensé qu'on était en mesure de gérer cette mission, peu importe la mission, peu importe l'anecdote et peu importe les difficultés. Donc, si on est à cette place-là, on a des ressources, on a des outils. Donc, ce mélange de prendre ses responsabilités, de ne pas prendre ce qui arrive personnellement. Bon, ben moi j'étais dans la jeune vingtaine et ce qui est arrivé, c'était un drame atroce, troisième acte. Mais en fait, quelque part, est-ce qu'il y a un mort d'homme? Ben le journaliste, il avait dit midi. Ben même s'il est de Libé, il est arrivé à 2h30. Ben oui, quelqu'un peut avoir besoin de manger à 2h30 de l'après-midi. Et que des choses comme ça, faire de son mieux, être authentique dans ce qu'on est. Ça permet aussi de pouvoir défendre ce qu'on a fait. De dire, OK, est-ce que je me suis engagée? Ça, c'est un truc très québécois. Est-ce que je me suis réellement engagée? Que ce soit pour faire le ménage, que ce soit pour être pompiste ou PDG, peu importe. Est-ce que je me suis engagée? Et puis, se faire confiance. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être que dans 2 jours, dans 2 ans ou dans 20 ans, je dirais, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais en même temps, à ce moment-là, j'ai fait au mieux de mes capacités, de ma conscience. Et ça, au niveau du travail, c'est fantastique parce que rien n'est parfait. Et en même temps, ça permet ça dédramatise. Et ça permet plus de profondeur. Voilà.
Eh ben, dites-moi, que de leçons pour un journaliste de Libé.
Oui, tout ça pour lui,
Incroyable. Merci, monsieur
Alors, ça, c'est aussi québécois, c'est de prendre l'expérience et de non pas dire c'est un échec, mais de dire OK, on a eu une difficulté, ça s'est pas passé comme ça devait, ça a été dur, il y a eu des conséquences négatives. OK, la prochaine fois, on fait comment? Qu'est-ce que j'en tire? Et de ne pas dire qui est le coupable, ça c'est français, c'est la faute à qui, mais on s'en fout. Là maintenant, on positive, on se sert de ce qui s'est passé comme levier pour améliorer. Ça c'est fantastique.
Question suivante, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui vous a particulièrement fait avancer, qui vous a appris?
Ah, définitivement la méditation.
Ah.
Je m'insurge contre l'utilisation. Alors, je prends des mots qui sont à bon escient. C'est-à-dire, je m'insurge contre l'utilisation de la méditation pour une meilleure efficacité dans l'entreprise. Pour moi, la méditation, c'est une façon de respirer et d'être connecté à soi-même plus calmement et plus richement pour que l'humain, parce que moi, l'humain est au cœur de mon travail, même si je travaille avec des entreprises avec grand bonheur, l'humain. Et la méditation, c'est vraiment une dimension de l'humain, reconnecter à l'humain. Donc,
Mais bon, ça nous rend quand même plus efficaces. Juste
effectivement,
pour vous énerver.
effectivement, effectivement. Et
Je suis terrible.
je ne vais pas à l'encontre de l'entreprise. Ce serait complètement puéril.
Non,
C'est que aujourd'hui, on utilise la méditation en disant, OK, 3 minutes de méditation et ça va boomer au service de quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, c'est.
non. Ouais, mais je pense que c'est aussi les consultants qui vendent la méditation. Qui s'adapte à l'entreprise en disant, regardez les bénéfices pour vous. Je vois, moi qui interviens en entreprise, et j'ai de la, et j'ai une chance extraordinaire, je fais une aparté, mais j'ai une chance extraordinaire que on me dit souvent on veut faire un cadeau à nos équipes.
Oh, wow.
Et qu'on vienne pas me chercher en me disant oui alors est-ce que ils vont qu'est-ce que ça va produire concrètement. C'est aussi un positionnement, donc je pense que c'est le positionnement aussi des gens qui font de la méditation en entreprise qui a amené
ouais.
ce
truc. Mais c'est peu, aussi une façon c'est une façon de mettre le pied dans la porte et de moi aussi je valorise,
oui voilà, de rentrer, ouais.
Effectivement,
mais je comprends tout à fait ce que vous dites, ouais. Troisième question, quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Alors, c'est être connecté à sa propre humanité. Ça permet une réelle bienveillance. Et je sais que c'est à la mode en ce moment. C'est bien parce que ça fait évoluer le monde de l'entreprise, mais pour moi, c'est une réalité. Être capable d'être connecté à sa propre humanité, c'est... Personne n'est parfait, c'est un work in progress, on fait de son mieux. Et cette bienveillance permet de l'espace, moins de drame, moins de violence dans les relations, qui fait que, oui, à toutes fins utiles, on est plus efficace, même plus, voire même plus efficient, mais le cœur même de la vie, c'est quand même l'humain. Et l'humain, dans la bienveillance, ben, il est moins amoché, il est moins pressé comme un citron, il a plus d'espace pour justement cette marée, ce flux et ce reflux qui permet de remettre l'humain au cœur de la société, en fait.
Y aurait-il un livre que vous pourriez nous conseiller à la lecture?
Alors, oui, on est très dans des valeurs qui me sont chères, ça serait le Tao Te Ching de Lao Tzu, parce que pour être un bon manager, c'est avant tout être un humain qui est bien dans sa vie, qui est centré dans sa vie. Et le Tao Te Ching permet des outils de compréhension, d'approfondissement, une vision globale, qui fait que c'est un cheminement, c'est le travail d'une vie quelque part.
C'est un acte. Et ce qui est étonnant dans le Tao Te Ching, c'est aussi la synthèse.
Oui, tout à fait.
C'est synthétique, c'est étonnant comme... ça me fait penser au prophète aussi,
oui.
Ce livre, oui. Où en peu de mots, on dit tellement. C'est comme si... on parlait de strates tout à l'heure, c'est comme si... Chaque phrase contenait 10 phrases.
Oui, tout à fait. Et ça résonne à différentes strates du conscient et de l'inconscient. C'est,
ouais.
C'est ça la quintessence. Et je ne suis pas plus que ça attirée par l'Asie, par exemple, mais, ou Khalil Gibran, qui est plutôt le monde arabe. Mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui incarne cet instant de grâce qui nous permet d'avoir des outils, une vision, une perspective du monde. Et le Tao Te Ching est absolument fantastique pour ça.
Et on va finir avec une citation.
Alors, la quintessence de mon travail, c'est vraiment l'humain au cœur de mon travail. Et si je travaillais avant en direction des communications, et maintenant je suis consultante interculturelle, mais c'est la même chose, c'est le « ici, maintenant et ensemble ».
C'est un peu comme le Tao Te Ching, 3 mots pour dire beaucoup.
Et c'est, en formation, par exemple, j'utilise beaucoup le 1 plus 1 égale 3. C'est pas de nier une entité ou l'autre, c'est que vous et moi, mais c'est tout le courant aussi de co-développement, de collaboration, c'est une vision plus, les Québécois utilisent.
C'est le totum de la plante.
Exact.
Vous connaissez le totum comme la somme des parties est plus grande que les parties elles-mêmes.
Ah, tout à fait. Et le ici, maintenant et ensemble. Et en formation, que ce soit avec des réfugiés syriens qui arrivent et qui sont dans une grande précarité et que j'accompagne pour mieux appréhender la société québécoise, pour qu'ils trouvent leur repère, ou des cadres supérieurs d'entreprises qui brassent des millions, on arrive à la même chose, c'est l'humain, Et le ici, ok, tout, je comprends d'où tu viens. Je peux entendre d'où tu viens, de la guerre en Syrie ou des multinationales à Hong Kong. Mais ok, ici, maintenant et ensemble, on fait quoi? Et c'est revenir à cette quintessence de la relation.
Ok. Où est-ce qu'on peut vous joindre? Je sais que vous avez un site internet. C'est peut-être la manière la plus
À
simple de vous
fait.
joindre.
Tout à fait, mon site internet, l'art et la manière conseil en interculturel.
Ok. Je le mettrai donc dans l'article qui sera attaché à ce podcast sur iTunes, sur SoundCloud et sur le blog moodstep.com. Et maintenant, je sors ma baguette magique car je peux exaucer vos voeux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir aujourd'hui? Et bien sûr, ma baguette magique fera en sorte que ça, ce soit, que vous l'obteniez.
J'aimerais voyager dans des, comme j'ai beaucoup voyagé, j'aimerais voyager encore dans des endroits qui me, où je retrouve cette, cet émerveillement de la rencontre à l'autre.
Ouais. Vous voulez être dépaysé, vous voulez dire?
Le dépaysement, ça peut être au coin de la rue, c'est de conserver, d'amplifier cet émerveillement de la rencontre. Quand on rencontre l'autre et que l'expression québécoise qui dit tomber en amour, c'est... Ah,
J'aime
c'est
cette
fantastique,
expression.
c'est... Oh, je suis émerveillée de découvrir... C'est pour ça que je me sens tellement privilégiée de faire ce travail, c'est que je rencontre des humains fantastiques qui vivent des choses... qui peuvent être très difficiles, mais en même temps, quel bonheur, la connexion à l'autre, c'est un privilège, c'est un privilège, et en même temps, pour moi qui suis dans la communication, c'est le cœur de ce que je suis, ce que j'ai envie d'être, en fait. C'est cet émerveillement de la rencontre à l'autre. Ouais.
Ah, nous avons voyagé. Merci beaucoup pour ce très long entretien et puis vive le Québec parce que je suis tellement contente là. Je pense qu'il va y avoir d'autres interviews avec des gens qui sont implantés des Québécois ou des gens qui sont implantés au Québec parce que j'aimerais bien savoir vraiment ce qui se passe là-bas, comment vous appréhendez les choses et notamment dans le monde de l'entreprise.
Avec plaisir.
Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Josias Gobb, qui est photographe implanté à Montréal. Josias m'a contacté il y a un peu plus d'un an parce qu'il avait écouté l'interview de Isabelle Padovani sur YouTube, puisque j'ai aussi une chaîne YouTube que je n'alimente plus, mais avec plus de 150 interviews vidéo sur le thème du bonheur. Et Josias m'a contacté et j'ai tout naturellement pensé à lui. En me disant, tiens, j'aimerais interviewer des gens au Québec et c'est lui qui m'a guidée vers Cécile. Donc, merci Josias. Petit 2, en fait, cet entretien était beaucoup plus long que ce que vous avez pu entendre parce que l'interculturalité, je pense, est un thème qui me touche, que je trouve très très proche de ce que j'essaye de comprendre de l'humain, de nos fonctionnements, de nos différences, mais aussi de ce qui nous fait avancer en groupe. Donc, je ne pouvais pas vous mettre tout l'entretien parce que je me suis lâchée, on va dire. Donc, un grand merci à Cécile. La semaine prochaine, on se retrouve avec Charlotte et j'ai un peu le blues parce que ce sera sûrement la dernière interview de la saison, si on peut dire qu'il y a des saisons sur ce podcast. L'année dernière, je suis partie 4 mois et là, en fait, je vais avoir un mois très intense avec beaucoup de turbines, avec ma première turbine à l'international. Donc, ce podcast sur l'interculturalité venait à point. Donc j'ai beaucoup de déplacements, ça va être compliqué de faire les enregistrements, de monter, de mettre en ligne. Donc je préfère privilégier le fait d'être zen et d'être vraiment concentrée sur mes clients. Donc pendant un mois j'arrête et puis en fin de compte on se retrouve mi-juillet. Et mi-juillet, 2 semaines après, je pars en vacances en Italie. Donc, je pense qu'on va se retrouver à la rentrée de septembre. Ça me fait un peu quelque chose parce que j'aime énormément enregistrer et rencontrer les gens que j'interviewe. J'aime énormément poser des questions et interroger nos fonctionnements. Donc ça me fait un petit pincement au cœur, et aussi parce que je sais que je suis en lien avec beaucoup d'entre vous. Alors ceux, les inaudibles ou ceux qui sont silencieux, mais aussi ceux qui me font des retours, avec qui on partage sur ce qui se dit dans les interviews. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec Charlotte. C'est un peu en plus, ça fait un peu un podcast de fin de saison surprise, parce que je comprends pas exactement ce que fait Charlotte, mais j'ai l'intuition que ça va être extrêmement intéressant et riche. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain.